Et bonjour à tous. Jeudi dernier, la plupart des enfants ont rejoint l'école que l'on présente comme le creuset de notre République. Bonjour Isabelle Souquet.
Bonjour.
Avec vous, nous allons cependant voir qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants, à échapper à l'enseignement républicain. Et puis nous recevrons Jean Songe. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous publiez Sodexo la gloutonne. C'est un livre consacré au deuxième groupe mondial de restauration collective. Et vous nous expliquerez comment un jeune entrepreneur marseillais a finalement réussi à devenir la 14e fortune de France.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Ils reprennent le travail et ils sont heureux. Phénomène étrange et typique chez les enfants qui retournent à l'école ce matin. On verra si c'est aussi vrai au lycée dans un instant. Avec
voilà,
les
ça c'était avant-hier. Florence Paracuelos sur Inter qui commente la traditionnelle rentrée des classes. L'occasion pour plus de 12 millions d'élèves de retrouver leurs copains, d'apprendre et puis de s'imprégner de ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le vivre ensemble. Seulement, tous les élèves, on va le voir, ne sont pas dans ce cas-là. Une minorité d'entre eux échappe à un enseignement qui soit conforme à ce qu'on appelle les valeurs de la République. On va le voir donc avec vous Isabelle Souquet, mais d'abord on va bien préciser les choses. Il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés, mais dont l'éducation, elle, est parfaitement assurée.
Oui, elle est assurée à la maison, par les parents eux-mêmes. Ça concerne 30 à 50 000 enfants. Alors, il faut pouvoir se le permettre parce que c'est très chronophage et qu'il faut soi-même savoir enseigner. Mais c'est formidable dans une grande majorité des cas parce que ça permet à des enfants d'être instruits en évoluant à leur rythme. C'est le cas de ceux qui ont une vie un peu spéciale parce que leurs parents travaillent et vivent dans des péniches ou des caravanes ou dans un refuge de montagne, par exemple.
Oui, puis c'est le cas aussi pour ceux qui optent pour une pédagogie dite alternative.
Oui, de type Montessori ou Freinet, ou enfin pour des raisons religieuses, qu'ils soient catholiques, juifs ou musulmans. Dans ce cas, ils peuvent se tourner vers des plateformes Internet.
Oui, ce qui... Après tout, est un outil comme un autre, sauf que, on a vu apparaître ces dernières années des sites autoproclamés, sites d'éducation, dont le contenu pose quand même question.
Oui, alors il en existe une dizaine d'obédience musulmane qui proposent une instruction à la maison. Apprends-moi Oumi, Eve Éducation, l'Académie du Muslim ou la Madrassa. Mais ce qu'a découvert Anna Erel, journaliste et auteur de plusieurs livres sur le salafisme, c'est qu'il y a parfois derrière eux une idéologie extrémiste. Elle s'est fait passer pour une mère de famille qui voulait déscolariser ses deux enfants pour les instruire à la maison pour des raisons religieuses. Et voilà ce qu'elle a constaté.
On a affaire à une école, en tout cas c'est ce que je pensais dans un premier temps. On a affaire à une école, on voit partout d'ailleurs le logo du CNED, parle énormément de la pédagogie Montessori. Sur le papier, il n'y a absolument rien d'inquiétant, tout a l'air assez légal. Et en fait, en creusant un petit peu, on se rend compte qu'en fait, ce ne sont pas du tout des écoles, ce sont 90% du temps des associations. Elles n'ont absolument pas le droit d'exercer, d'être capable de fournir des professeurs, un directeur et voilà, une vie scolaire. Et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un très gros problème et qu'on a vu qu'en fait, l'enseignement se décrit comme étant conforme au socle commun de compétences qui est imposé par la loi. Or, les matières sont à la carte et on y fait un petit peu ce qu'on veut.
On y fait un petit peu ce qu'on veut, c'est-à-dire précisément, Isabelle ?
Eh bien, on vous affirme qu'on peut assurer un enseignement complet, conforme à ce qu'exige l'éducation nationale et parfois jusqu'à la terminale. Mais dans les faits, ça ne se passe pas comme ça.
Quand vous creusez un petit peu, en fait, vous vous rendez compte que l'aspect le plus important, c'est l'aspect religieux. Tout ce qui a trait au prophète, tout ce qui a trait à l'éducation religieuse, et puis l'éducation scolaire passe après. Ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on va sur le site, il y a des informations. Le problème, c'est la véracité et la vérité derrière ces informations. Par exemple, il y a souvent beaucoup de noms de professeurs, hommes ou femmes, qui défilent, vous expliquant que voilà, ils ont telle et telle compétence, qui seront ravis d'enseigner à votre enfant. Mais on peut pas cliquer sur ces noms, on les a jamais retrouvés.
Donc, pour dire les choses clairement, Isabelle, on a affaire à un site discutable.
Oui, parce que enseigner la religion à la maison, une fois de plus, ça ne pose pas de problème en soi. Mais quid du cursus exigé par l'éducation nationale, ce fameux socle commun de connaissances et de compétences? Et surtout, qui y a-t-il derrière ces plateformes?
C'est-à-dire?
Eh bien, on a reconstitué l'historique du site dont on vient de parler avec Antoine Champagne. Il est journaliste et cofondateur du média d'investigation Reflet.info et il est aussi spécialiste de ce type de recherche. Cherche sur Internet et voilà ce qu'il a fait.
Alors là, on va aller chercher qui a fondé une école qui s'appelle l'Académie du Muslim. Alors, première surprise, la plupart des gens qui achètent des noms de domaine demandent d'anonymiser les données qui les concernent. Si le nom de domaine est un peu ancien, on va pouvoir remonter dans le temps. Cette école avait un autre nom avant. En croisant un petit peu, on remonte sur le compte Twitter de l'ancien nom.
Et donc, qu'est-ce qu'il nous apprend ce compte Twitter ?
Eh bien, des choses également assez intéressantes, écoutez encore.
Un des, pas des premiers tweets, mais pas très loin, renvoie sur une chaîne Telegram d'une personne qui s'appelle Souleyman Al-Guadeloupi, qui prêche un wahhabisme très très strict et qui fait des allers-retours entre l'Arabie Saoudite et la France. Son mentor religieux est l'oncle de Mehdi Nemmouch, l'auteur de l'attentat dans le musée juif de Bruxelles. Alors évidemment, en faisant d'autres recherches plus journalistiques, on va se rendre compte que l'oncle de Mehdi Nemmouch est fiché S parce qu'il recrute des djihadistes.
Attendez, ça veut dire qu'on a derrière une pseudo-école sur Internet un homme qui est inspiré par un recruteur de djihadistes.
Oui, mais ce n'est malheureusement pas le seul site à poser ce type de questions. Autre exemple, d'autres sites renvoient sur des entités salafistes. C'est le cas d'Eve Education, domicilié aux Émirats, dont le formulaire d'inscription vient directement d'une école wahhabite en Arabie Saoudite. Alors, le résultat, c'est que ces écoles, loin d'aider les enfants à s'intégrer dans la société française, les enferment et les éloignent des autres enfants. C'est en tout cas ce qu'a constaté un ARL.
Ce que, au début, j'ai vu comme du communautarisme est devenu finalement beaucoup du séparatisme, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui voulaient vivre vraiment que dans un entre-soi, qui ne s'acceptaient qu'entre eux, qui faisaient des différences entre eux, par exemple, qui étaient des Français d'origine et des Français de souche. C'était des gens qui se disaient être en marge de la société et qui, du coup, avaient créé vraiment un espèce de communautarisme et qui tendait vraiment à un séparatisme, à la base qui partait d'école. Donc, on se rencontrait et on parlait autour de nos enfants. Et puis, finalement, ça rentrait dans d'autres sphères de notre vie privée, comme, voilà, la polygamie. C'est un peu un packaging en fait. Si tu inscris tes enfants dans cette école, c'est que tu as quand même une certaine vision, une certaine idée de la société actuelle, du pays dans lequel tu vis, en l'occurrence en France. Et on essaye de te faire complètement accepter cet entre-soi et de pas juste en prendre quelques aspects.
Et on laisse faire, on ne fait rien contre ces sites.
Alors il faut savoir que la loi vient de changer, elle a durci les conditions d'enseignement à domicile. Auparavant, il suffisait d'une simple déclaration, mais désormais, ce sera soumis à une autorisation.
Donc on va regarder de plus près ce que font ces sites.
Alors en fait, non, pas du tout, parce que ces sites-là, ce ne sont pas des écoles. Donc l'éducation nationale n'a pas le droit de mettre son nez dedans. Tout ce qu'elle peut contrôler, c'est la façon dont les enfants progressent. Donc ce que les inspecteurs regardent, c'est si l'enfant a le niveau requis ou non, mais pas le contenu du site internet. Écoutez ce qu'en dit la députée Anne Brunira qui a travaillé sur la partie consacrée à l'école dans la loi votée cet été.
Les contrôleurs, les inspecteurs n'ont pas jugé de l'appartenance religieuse, politique ou philosophique, comme on dit l'expression, des familles. Le sujet, c'est est-ce que l'enfant est correctement instruit, correctement au sens où est-ce qu'on lui instruit toutes les connaissances du socle commun, et dans ces connaissances, il y a par exemple l'éducation civique, les principes de la République, il y a le sujet des SVT, la biologie, le sport, ça c'est un premier sujet. Est-ce qu'il y a des connaissances qui sont délibérément omises, non instruites? Ça c'est une première piste. La deuxième chose aussi auquel veillent les inspecteurs, c'est est-ce que cet enfant est socialisé? Est-ce qu'il va dans une association? Est-ce qu'il va au sport, etc.?
Et qui, on parle d'inspecteur, mais en fait, qui se charge de ce contrôle précisément ?
Oui, oui, ce sont bien les inspecteurs de l'éducation nationale. Chaque enfant est théoriquement contrôlé une fois par an. Et l'un de ces inspecteurs se souvient de ces contrôles faits au domicile de certains parents.
J'ai l'exemple d'une famille. Il y avait trois enfants, deux filles et un garçon. Le garçon était parti en sport-études au Maroc. Et les deux filles étaient instruites dans la famille. Ils utilisaient une plateforme qui permettait de suivre l'instruction à distance. On a vu quand même notamment des jeunes filles qui étaient là quand même dans une éducation extrêmement rigoriste et qui était un obstacle à l'ouverture de ces jeunes filles. Et même, elles étaient même voilées à la maison. Et donc, nos préconisations sont toujours, enfin, en tout cas celles qu'on a faites avec mes collègues, c'est toujours rescolarisation.
Et cette rescolarisation, elle a eu lieu ?
Eh bien, dans la plupart des cas, non, elle n'a pas eu lieu. Il faut dire que c'est une préconisation, hein, et pas une obligation. Et encore, là, on parle des familles qui sont contrôlées, mais dans les faits, toutes ne le sont pas. Elles passent parfois entre les mailles du filet, comme l'explique un autre ex-inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin.
En principe, les enfants instruits à domicile devraient être contrôlés chaque année. En réalité, ils ne le sont pas, notamment faute de moyens. Devant le développement du nombre d'enfants à aller voir, il y a des départements, puisque ça se fait au niveau du département, qui sont vraiment dans l'impossibilité de le faire. La dynamique de ce développement est telle qu'on aura de moins en moins de possibilités de le faire, sauf à recruter massivement des inspecteurs, ce qui est sans doute pas à l'ordre du jour.
Il n'est pas très optimiste, cet inspecteur. Maintenant, il y a d'autres enfants, Isabelle, qui, eux, ne sont pas à la maison et qui ne sont pas non plus dans une école répertoriée, on va dire.
Oui, ce sont des enfants qu'on voit disparaître, en quelque sorte, des élèves fantômes. C'est arrivé en Seine-Saint-Denis, où les enfants de tout un pâté de maisons se sont déscolarisés. Alors, en croisant les fichiers des écoles et de la CAF, la mairie en a comptabilisé 68. Et puis, on s'est rendu compte qu'ils allaient tous à un même endroit pour étudier pendant la journée des préceptes religieux. Ces structures qui sont non déclarées, sans espace de récréation ni de cantine, et totalement illégales, ont été baptisées des écoles de fête. Et les enquêteurs en ont trouvé d'autres de ces écoles sans nom, à Château-Chinon, à Aulnay-sous-Bois ou encore à Sevran, comme nous le raconte encore la députée Anne Bruniera.
Les enfants qui étaient réunis là étaient déclarés instruits en famille. Donc du coup, ils ne pouvaient pas avoir fait apparaître de soupçons parce qu'ils étaient déclarés instruits en famille, mais sauf qu'ils n'étaient pas en famille. En fait, ils étaient dans cet endroit-là. Mais effectivement, le sujet, c'est comment on détecte ces enfants. On croise des fichiers, bien sûr, des écoles, de l'éducation nationale, de l'instruction en famille et des écoles hors contrat. Et le plus important, je pense, moi, c'est de vérifier les enfants qui sont retirés de l'école. C'est-à-dire que quand un enfant quitte une école, il faut qu'on s'assure qu'il est inscrit dans une autre école. Vérifier que chaque année, il est quelque part.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a évoqué le cas de ces enfants déscolarisés qui sont parfois sous l'emprise d'une idéologie salafiste. Mais il y a d'autres enfants dont l'éducation semble s'éloigner des valeurs de la République, Isabelle Souquet. Ce sont notamment ceux qui sont inscrits dans ce qu'on appelle les écoles Steiner-Waldorf.
Ce sont des écoles, on en compte une vingtaine en France, issues du mouvement anthroposophique. Ce mouvement, il a été inventé et théorisé par un Autrichien, Rudolf Steiner, qui ne voulait pas qu'on dise que c'était une religion, mais une philosophie. Maintenant, quand on y regarde de plus près, ça ressemble plutôt à un courant mystique et ésotérique assez proche du New Age.
C'est-à-dire ?
Eh bien, dans une philosophie, il n'est pas question de croyance, alors que dans un mysticisme, c'est le cas. Et par conséquent, il y a dans les établissements Steiner des croyances, des rites, et surtout des enseignements parfois complètement à rebours des cours classiques.
Alors là, faut donner des exemples.
Bah écoutez, tout simplement le témoignage de Grégoire Perra. Il est aujourd'hui professeur de philosophie, lui, dans un lycée public. Mais il a été élève d'une école Steiner, puis professeur dans ses établissements. Et il est aujourd'hui très critique quand il évoque les enseignements qu'il a reçus.
Je me souviens par exemple de l'enseignement de l'embryologie, où on nous avait montré les différents stades de formation de l'embryon. Et puis ensuite, notre professeur nous avait fait faire le parallèle entre ces différents stades et les 7 jours de la Genèse dans la Bible. Et c'est ça l'anthroposophie. L'anthroposophie, c'est toujours un mélange entre des faits scientifiques qu'on peut trouver dans les manuels et des considérations religieuses. C'est différent d'une religion dans le sens où les deux vont être mélangés. Selon l'anthroposophie, ce n'est pas l'homme qui descend de l'animal, ce n'est pas l'homme qui descend du singe, c'est le singe qui descend de l'homme. Les singes sont des hommes dégénérés.
Effectivement, c'est pas tout à fait ce qu'on apprend à l'école.
Non, et puis c'est pas tout. Si on en croit les anciens élèves que j'ai interrogés, il y a aussi une vision du monde qui semble tout aussi contestable.
Le problème, c'est que l'anthroposophie, ce sont aussi des idées racistes, antisémites, avec une conception de l'évolution de l'humanité avec des races successives dont certaines sont en avance et d'autres en retard. Donc, quand vous recevez l'enseignement de gens comme ça, qui croient à la doctrine anthroposophique, qui croient à ces délires comme quoi, par exemple, Mars est une planète liquide sur laquelle vivent des dinosaures invertébrés, que sur la Lune, il y a des nains qui sont comme des enfants de l'âge de 7 ans et qui hurlent, et que leur cri résonne dans l'atmosphère lunaire. Quand vous pensez que le cosmos s'arrête à Saturne, quand vous recevez l'enseignement de gens qui croient à ces choses-là, qui vous les transmettent pas telles quelles, pas de manière aussi brute, mais qui y croient, eh ben forcément vous allez en être imprégné en tant qu'enfant.
Oui, imprégné, mais apparemment ce sont aussi les résultats scolaires qui s'en ressentent.
Oui, et l'inspecteur de l'éducation nationale qu'on a entendu tout à l'heure a pu le mesurer directement, car il a aussi été chef d'établissement et il voyait alors arriver dans son lycée d'anciens élèves d'une école Steiner de sa région.
On avait donc un établissement de proximité de Steiner qui arrivait au lycée. Et là, on voyait des élèves plutôt épanouis, plutôt agréables. Moi, avec qui c'était facile de discuter, mais alors au niveau scolaire, c'était vraiment très, 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 très mauvais. Alors, ces élèves étaient vraiment en très grande difficulté, mais dans toutes les disciplines. Hein. À part peut-être à l'oral, où ils étaient plutôt à l'aise, vraiment. Mais sur le plan du strict connaissance d'un élève de seconde, ils n'avaient vraiment pas le niveau. Et d'ailleurs, la plupart, ils ne continuaient pas, parce qu'on n'arrivait pas, nous, à les remettre à niveau en quelques mois. Les élèves qui de seconde, 35 secondes, on ne peut pas avoir deux ou trois qui sont vraiment très en difficulté, parce qu'ils n'avaient pas fait le programme, manifestement, eux, à Steiner. Je crois que c'est compliqué, Steiner, ça reste compliqué.
Compliqué maintenant, si j'entends bien quand même, Isabelle, les élèves ne sont pas au niveau certes requis par l'éducation nationale, mais ils seraient plus à l'aise que les autres.
Oui, c'est vrai, et ça c'est un argument qu'on entend souvent sur l'épanouissement des enfants, et il y en a d'autres. Certaines écoles Steiner se disent plus ouvertes que d'autres pour l'accueil des enfants handicapés, mais là encore, il faut vraiment regarder au-delà du discours.
Ces écoles se vantent de pouvoir accueillir les enfants handicapés mieux que les autres. Et moi, je me souviens qu'effectivement, dans ma classe, il y a eu des enfants handicapés, lourdement parfois, qui nous ont accompagnés. Et certains même sont restés jusqu'au bout de la pédagogie. Ils apprenaient rien, ils comprenaient rien, il n'y avait aucune adaptation à leur handicap. Mais ils étaient là, en cours, passifs, et ça ne posait aucun problème. Sauf que pour eux, c'était tragique parce que le retard s'accumulait. Ils étaient la risée des autres élèves, ils étaient maltraités dans les cours de récréation et les professeurs n'intervenaient pas.
Les professeurs n'intervenaient pas.
Eh bien non, non, parce qu'il existe dans ces écoles une croyance particulière qui est fondée sur le karma et qui dit qu'on ne doit pas s'interposer et interférer.
Pour les professeurs des écoles Steiner-Waldorf, le groupe d'élèves qui se réunit au sein d'une seule et même classe, c'est un groupe qui est réuni par le karma, ce sont des enfants qui ont des comptes karmiques à régler, et donc il ne faut pas intervenir dans le règlement de leurs comptes karmiques. C'est-à-dire des enfants laissés à eux-mêmes, qui se livraient aux pires sévices les uns sur les autres, parce qu'il n'y avait pas d'adultes pour intervenir. Et si en plus c'est un enfant handicapé, eh bien le karma a voulu qu'il s'incarne dans un corps déficient, pour purger sans doute une faute qu'il avait commise dans une vie antérieure. Par exemple, les autistes, pour l'anthroposophie, ce sont des êtres humains qui ont été dominés par le démon Ahriman dans une vie précédente.
Non mais ça laisse sans voix là ce qu'on entend, Isabelle. On laisserait des enfants sans intervention des adultes sous prétexte que c'est leur karma qui l'exige.
Oui, c'est vraiment surprenant, mais j'ai recueilli d'autres témoignages de personnes qui n'ont pas souhaité parler au micro, mais qui m'ont raconté exactement les mêmes choses.
Et du côté des écoles Steiner, comment alors on justifie ça?
Alors attention, on dément. Lucie Skandar, la porte-parole de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf, que j'ai sollicitée, n'a pas souhaité s'exprimer au micro, mais elle m'a tout de même envoyé une réponse écrite. Et sur ce chapitre des handicapés, voilà ce qu'elle m'a dit précisément. Nous avons fait lire son message.
Ce genre de témoignage est extrêmement minoritaire. Aucune situation de dérive sectaire n'a été constatée en plusieurs décennies, aussi bien par la Miviludes que par l'Éducation nationale. Si les faits rapportés dans ces témoignages sont avérés, alors nous serions très reconnaissants à ces témoins de nous donner les éléments nous permettant d'enquêter sur les situations rapportées et de prendre, le cas échéant, des dispositions. Nous ne saurions tolérer dans nos établissements des discours associant violence et karma ou encore des cours spécialement prévus pour les jours d'inspection.
Donc on dément qu'on laisse les enfants se débrouiller au nom de leur karma et on explique qu'il n'y a eu aucun signalement.
Alors sur la question des enfants handicapés, c'est vrai. En revanche, l'UNADFI, qui lutte contre les mouvances sectaires, a tout de même de son côté reçu plusieurs signalements, mais qui reproche surtout à ces écoles de ne pas vraiment informer les parents de ce que sont leurs croyances. C'est ce que m'a expliqué Pascal Duval, la porte-parole de l'UNADFI.
Les signalements qui nous sont parvenus se ressemblent beaucoup. Ce sont des parents qui se rendent compte plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir scolarisé leurs enfants dans ces écoles Steiner, ils ont une sensation extrêmement désagréable d'avoir été dupés, c'est-à-dire qu'on ne leur ait pas présenté les fondements de la pédagogie et les fondements de la doctrine Steiner lorsqu'ils ont inscrit leurs enfants. Et c'est bien ça qu'il leur aurait reproché, hein. C'est que ces croyances de fond, comme l'astrologie, la croyance en la réincarnation, au karma, n'est jamais présentée de façon claire et nette. Et que, en tant que parent, hein, vous, moi, n'importe qui, est en droit de savoir à quoi les enfants vont être confrontés, à quel type de croyances. Et s'ils y adhèrent, qu'ils inscrivent leurs enfants, et il n'y a de problème pour personne, mais vous comprenez bien que s'ils n'ont pas connaissance de ces croyances de base du mouvement, bah, les parents adhèrent à quelque chose qu'ils ne connaissent pas vraiment, en fait. Et c'est là le problème.
C'est le problème, et on en a identifié un autre de problème, Isabelle, qui lui a abouti très récemment à la fermeture d'une de ces écoles.
Oui, c'était fin août, il y a quelques jours à peine, l'école Steiner-Waldorf Les Boutons d'Or de Bagnères-de-Bigorre a été fermée par le rectorat. Plusieurs rapports avaient signalé l'absence d'enseignement en histoire, en géographie, en sciences, et avaient souligné que les démarches d'apprentissage étaient très insuffisantes.
Ouais, donc les choses évoluent. Maintenant, et on va conclure là-dessus d'ailleurs, Isabelle, il y a aussi des élèves qui échappent à toute éducation, qui ne sont pas dans une école, et en fait on ne sait même pas où ils sont.
Oui, et là ce sont des enfants qui sont inscrits nulle part, et dont on ne sait pas du tout ce qu'ils font de toute leur journée. Alors, dans les Hauts-de-France, 5 municipalités ont pris la mesure de ce problème, et ont créé des cellules d'évitement scolaire pour essayer de les repérer et de les ramener dans le giron de l'école. C'est le cas à Denain, où Emmanuel Chérier est adjoint en charge de l'éducation.
En décembre 2020, nous avions 7 cas lourds d'évitement scolaire. En tout et pour tout, nous avons entre 30 et 50 cas traités par les médiatrices scolaires. Sachant que sur toute la commune, nous avons 3000 enfants scolarisés en maternelle et primaire. Ça peut être le cas d'une maman qui travaille la nuit, qui le matin n'arrive pas à faire lever sa fille pour l'envoyer à l'école. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est quelqu'un qui est submergé de problèmes. Ça peut être une maman qui a quitté un conjoint violent. Et s'il faut parfois brandir un peu la menace du tribunal, déclencher l'assistante sociale, c'est dans l'optique de faire surtout prendre conscience aux adultes de leur devoir de parents.
Des adultes qui sont donc confrontés à de gros problèmes de pauvreté, de précarité. Il peut s'agir aussi de populations culturellement très éloignées de l'école. On pourrait citer ainsi les communautés gitanes comme à Perpignan, où l'idée d'une école publique comme ciment d'une société a encore du mal à s'imposer.
Ça, c'est pas très nouveau, mais en tout cas, tout ce qu'on a raconté montre que le fractionnement de la société auquel on assiste se retrouve aussi dans l'augmentation du nombre d'enfants qui s'éloignent de cette école républicaine. Même si, on le rappelle, ils ne sont un qu'une minorité. Et puis deux, je précise bien que ce que nous avons essayé de faire ici, c'est d'identifier des signaux faibles qui disent des choses de l'évolution de notre société et non pas de mettre en cause le principe même de l'éducation à domicile qui, dans de très nombreux cas, se passe évidemment très bien. Alors merci Isabelle Souquet pour cette enquête. Je précise que si ça vous intéresse, vous pouvez la réécouter, la lire, la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Mes secrets d'info, ça continue. Comment la Sodexo a-t-elle réussi à devenir le deuxième groupe mondial de restauration collective? On vous raconte ça dans quelques instants. My heart is in shock. Somehow everything is back to life. Your eyes couldn't show. Fear inside us is Je disais récemment de lui que c'était un ovni dans le paysage musical français. C'était Rover, avec un extrait de son dernier album et une chanson qui s'intitule Roger Moore, en référence à l'acteur britannique disparu il y a 4 ans.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Jean Songe, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un livre intitulé Sodexo, la gloutonne. Sodexo, c'est la deuxième entreprise de restauration collective dans le monde. Avec 470 000 salariés, c'est un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros. Ça donne un peu le tournis, hein, avec un objectif à terme de conquérir 1 milliard de consommateurs, d'où d'ailleurs ce titre de la gloutonne. Et pourtant, cette histoire, j'en songe, ça commence comme un roman de Pagnol. C'est à Marseille, avec un amateur de tennis qui travaille dans un simple hangar à Anchois, c'est ça ?
C'est exact. L'homme s'appelle Pierre Bellon. Il est issu d'une famille quand même assez aisée qui fait dans le transport maritime entre Marseille et l'Algérie. Et donc, il a eu l'idée de démarrer dans un hangar à Anchois prêté par son oncle et quand même l'aide financière de son papa qui lui alloue quand même la petite somme, l'équivalent de 130 000 euros à peu près pour démarrer son activité.
Ce qui n'est pas rien.
Et il a l'idée de livrer des repas chauds aux salariés des entreprises de Marseille ou de différentes activités. Ce qui s'appelle perçu que les gens ne rentraient plus déjeuner chez eux. Donc il s'est dit, moi je vais apporter les repas sur le lieu de travail, sauf qu'il est un peu malhabile au
précise,
début.
Enfin, on va préciser, on est dans les années 60 là.
On est dans les années 60, ouais, on est au tout début des années 60. Et donc son idée, c'est de c'est des plats simples, hein, c'est des frites, c'est des choses comme ça. Sauf qu'il s'aperçoit que le temps de livraison, au moment où les frites sortent chaudes des bassines, le temps d'arriver, de les livrer tout avec sa petite camionnette, eh ben elles arrivent froides, ramollies et pas très bonnes. Donc c'est pas un triomphe, quoi. On peut pas dire que c'est un triomphe. Donc il va repenser peu à peu son activité. Il a l'idée assez géniale, hein, il faut dire. C'est-à-dire que lui, son business model, ce qu'on appelle, hein, il y a tout le langage du management qui est important. Il n'investit pas. C'est-à-dire que pour apporter les repas et tout, il va pas construire les cuisines. C'est l'entreprise qui va construire la cuisine, lui se contente de préparer les repas, de les fabriquer et de payer ses salariés. Il réduit au minimum ses frais d'investissement.
Voilà, et avec ce modèle, il va donc se développer et constituer un véritable empire, parce qu'aujourd'hui, il est partout. Il est aux États-Unis, il est en Amérique du Sud, il est en Chine, il est en Afrique, il est dans les prisons, il est sur les plateformes de forage, il a investi l'éducation, la santé, il est partout.
C'est tentaculaire. C'est ça qui est intéressant et qui m'a intrigué, parce que tout le monde connaît à peu près le nom de Sodexo. Si vous avez des enfants, presque invariablement, les parents d'élèves ont été confrontés à la restauration dans les cantines scolaires, et la Sodexo est quand même la principale pourvoyeuse de pauvre nourriture pour nos petites têtes. Et donc, les dirigeants de Sodexo, que ce soit Pierre Bellon, qui est un homme maintenant qui a plus de 90 ans, avec sa fille a pris le relais, Sophie, c'est à la fois une entreprise qui, au départ, est familiale, avec un vrai fonctionnement à l'ancienne. Sa fille a la main mise, et la famille, les trois sœurs et le frère, ont la main mise totale sur l'entreprise. Mais
et en même temps,
elle
c'est multinationale.
En effet, comme une multinationale américaine, chinoise, etc.
Vous avez utilisé les termes de pauvre nourriture en parlant notamment des cantines scolaires. Alors, vous évoquez aussi dans votre livre les polémiques qu'il y a eu justement sur la question de la qualité aussi de cette nourriture. Et vous évoquez notamment la polémique de 2013 autour des cordons bleus qui étaient faits avec de la peau de dinde, des viandes dopées à l'eau, beaucoup de gras, etc. Et puis 2018 aussi, où des parents parisiens découvrent que des allumettes bio et présentées comme végétales sont essentiellement composées d'eau, de sucre, d'huile d'amidon, de poudre de toutes sortes. C'est toujours le cas aujourd'hui ?
Bah écoutez, je pense, j'ai arrêté mes investigations, mais je pense pas que le modèle puisse vraiment changer. Enfin, vous auriez équeuté 500 kilos de haricots verts, c'est absolument impossible. Donc il faut utiliser des conserves, il faut utiliser des plats surgelés. Il y a tout un effet d'annonce, de vitrine sur le bio, la qualité des aliments, etc. Mais les quantités à pourvoir à Marseille, Sodexo est présent quasiment sur toutes les écoles. Donc vous imaginez, ça doit être 15 000 repas.
Avec comment des repas, vous dites à 1,94 €.
C'est ça, sur les appels d'offres, les marchés se tiennent à quelques centimes d'euros, vraiment. Et Pierre Bellon l'avait compris dès le départ, il avait lui ce qu'il appelle la culture du sou. C'est-à-dire que 1 centime ou 2 centimes d'euros de différence sur un produit, sur un yaourt, un truc, font toute la différence quand évidemment vous avez 15 000 repas à fournir.
Ouais, c'est le nombre qui fait le chiffre d'affaires. Alors, on évoque le côté quasi industriel de cette nourriture, mais ce qu'on sait moins, c'est que Sodexo est également présent, par exemple, dans le Lido, présent sur le marché de la flotte de loisirs sur Seine, présent à Clairefontaine aussi, où là, les repas ne sont pas à 1,94 €.
Non, mais il y a une palette de prestations qu'on ignore un peu. Paris, pour Sodexo, est une vitrine. C'est destiné vraiment à la fois aux touristes, aux décideurs étrangers, de montrer qu'ils sont capables d'être dans le luxe, d'être dans les paillettes. Ils ont la restauration et les boissons de la Tour Eiffel, avec des restaurations de luxe aussi, avec des tarifs absolument ahurissants.
Et puis ils ont des manifestations sportives type prestigieuses aussi, hein, du type le Tour de France, Roland-Garros, le Stade de France, le Parc des Princes.
Oui, les Jeux Olympiques, la vitrine de Paris, c'est pour, à l'étranger, essayer d'investir ce qu'on a, aux États-Unis on appelle les arénas, c'est plus des stades, c'est les arénas, des arènes sportives, mais en vérité, où on peut faire des concerts, parce que les profits sont beaucoup plus intéressants de faire un concert dans un stade que finalement un match. Et puis, c'est-à-dire, c'est les cinémas, c'est les zoos, c'est les parcs aquatiques, c'est les aquariums, c'est tout ça. Tous les lieux aussi de divertissement. Là, la Sodexo peut être présente.
Ouais. Alors, vous évoquez cette fois-ci des mouvements sociaux qui ont touché aussi la Sodexo, que ce soit aux États-Unis, dans le Maryland, notamment en Arizona. Et vous faites état donc de ce constat de l'Observatoire des multinationales en 2017 qui dit que la Sodexo figurerait à la seconde place des entreprises les plus inégalitaires après Carrefour.
Oui. Complètement. Alors l'argument de Sodexo se tient, hein. Leur réponse, elle se tient, elle dit oui, bien sûr que nous avons une échelle de salaire inégalitaire, parce que nous avons quantité d'emplois non qualifiés. En plus, comme la France représente une petite part des activités de Sodexo, la France c'est 35 000 employés hein, sur 470 000. Donc à l'étranger, de toute façon, les salaires sont indexés sur le salaire minimum prévu par la loi du pays. Donc vous imaginez que le salaire moyen, en effet, à l'étranger, d'après les calculs que j'ai pu trouver, les estimations, c'est environ 174 € mensuels.
Alors parlons de la suite pour conclure de ce qui peut se passer après. Alors déjà, la succession était une affaire de famille, ça ne l'est plus tout à fait aujourd'hui. Mais vous racontez cette anecdote, vous dites que lorsque Pierre Bellon a voulu passer la main, il a réuni ses enfants, il leur a dit, je cite, « démerdez-vous ».
Oui, démerdez-vous. Mais enfin, c'était démerdez-vous dans un sens quand même très, très, très précis, parce qu'il a quand même bouclé son héritage. À la fin 2013, il a fait signer aux membres de sa famille, qui se compose donc de son épouse, de ses 4 enfants et de ses 13 petits-enfants, un contrat d'une 20aine de pages, ou les membres de sa famille proche, donc, ont l'interdiction de céder leurs actions à un tiers extérieur pendant 50 ans. C'est-à-dire que la mainmise de la Sodexo, elle est encore assurée depuis 2013 pendant 50 ans. Le démerdez-vous, c'était arrangez-vous entre vous pour essayer de décider qui est le plus apte ou la plus apte à diriger l'entreprise. C'était aussi simple que ça.
D'accord. Et le créneau d'avenir, c'est les personnes âgées, c'est les repas à domicile, c'est les résidences seniors, c'est là que il y a du grain à moudre, un développement encore possible.
Un gros potentiel. On sait que la population mondiale est vieillissante, les naissances sont en berne, on va dire, un peu partout. Actuellement, le pouvoir d'achat, on va dire, des anciens est quand même un des plus attractifs. On imagine, par exemple, qu'au Japon, on vend plus de couches-culottes adultes que de couches-culottes pour enfants. Ça donne des signes, quand même, du futur qui est en train de se décider.
Bien, merci Jean Songe pour toutes ces explications, ces précisions sur la Sodexo. Je rappelle donc que votre livre s'intitule Sodexo, la gloutonne. Je précise qu'il est édité au Seuil et j'en profite pour remercier nos confrères de France Bleu Occitanie qui nous ont permis d'établir la liaison avec vous. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et Martin Broyer, que je remercie vivement d'ailleurs pour toutes ces années passées à nos côtés. Elle a été réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Pauline Laverdure et Florian Dorimini. Je vous souhaite un excellent week-end.